Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Une semaine asiatique. Première étape, Confucius.
Qu'est-ce que le savoir, maître ?
C'est savoir, savoir. Ignorer, ignorer. Ce que l'on sait, savoir qu'on le sait. Ce que l'on ignore, savoir qu'on l'ignore.
Ce que l'on ignore, savoir qu'on l'ignore. La philosophie occidentale a eu tendance, depuis la fin du XVIIIe siècle, à installer la Chine dans une altérité radicale. C'était le domaine de quelques spécialistes aventureux. Ce que l'on sait, savoir qu'on le sait. Une silhouette, cependant, était familière à tous, c'était Confucius. Sa première mondialisation a été le fait des missionnaires jésuites à partir de la fin du XVIe siècle. Ils entreprirent une des médiations les plus étonnantes de l'histoire, le transfert du savoir européen en Chine et vice-versa. La Chine résista à la conversion au christianisme, mais Confucius y gagna une place au pinacle de la sagesse universelle à hauteur de Bouddha, Mahomet, Jésus. Cette première mondialisation s'était faite en latin et en français. La seconde se fit en anglais, chez les auteurs américains. Une autoroute du savoir qui contourne le Pacifique s'est constituée depuis longtemps, reliant la Chine aux États-Unis, où les enfants des classes dirigeantes chinoises sont très nombreux à faire leurs études. Mais aujourd'hui, troisième mondialisation, la Chine assure elle-même la représentation qu'elle veut donner d'elle-même. Pékin attribue aux innombrables instituts de culture ou de business qu'elle ouvre dans le monde le nom de Confucius, qui permet de renvoyer à tous les pays une image d'harmonie utile pour dissimuler d'autres aspects de sa politique.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Anne Chani, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Professeur d'histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France. Figurez-vous que c'est le bicentenaire de la première chaire consacrée aux Chinois, aux Collège de France, c'était en 1804, le nommé Abel Rémusat.
1814.
1814, oui. Le nommé Abel Rémusat, qui vous a précédé, qui consacrait lui beaucoup de cours à d'autres aspects très importants de la vie intellectuelle chinoise, le bouddhisme, le taoïsme.
Oui, Jean-Pierre Abel Rémusat était largement un autodidacte, mais un autodidacte très émouvant. Enfin, je détiens pour l'instant un de ses cahiers où il prenait des notes comme un écolier, en fait, avec des listes de vocabulaire en chinois et en manchou, puisque sa chaire s'intitulait donc littérature chinoise et tartare manchou, puisque la Chine à l'époque était une Chine manchou depuis 1644, et c'est cette dernière dynastie manchou qui a marqué la fin du système impérial en 1911. Donc,
On va faire comme vous, comme lui plutôt. On va prendre des notes en vous écoutant, Anne Cheng, très scrupuleusement. C'est difficile de retrouver le Confucius authentique, parlons de lui un instant avant d'en venir à la mondialisation du personnage. Enfin, les dates sont canoniques, 551, 479.
Oui, ce sont des dates conventionnelles, oui.
Avant notre ère. Mm-hmm. On peut dire qu'il a eu une vie faite d'échecs. Hein.
Oui, enfin, disons que sa biographie, entre huit paires de guillemets, date de cinq siècles après son vivant. Donc, c'est une biographie qui est largement reconstruite, avec une grosse part de légendes, de mythification, etc. Donc, disons que de cette biographie ressort le personnage d'un héros malheureux, enfin d'une sorte de héros pathétique, enfin d'un perdant magnifique.
Le chien errant, enseignant. Ici, c'est une reconstruction par la RTF, feuilleton de 1958, que vous êtes curieuse d'écouter. Anne Cheng, c'est Jean Topard qui joue le rôle du maître, et les disciples, c'est un peu comme dans Mère Courage de Bertolt Brecht, ils poussent le chariot de tribulation en tribulation.
Pourquoi devons-nous errer encore? Ma sagesse serait-elle en défaut?
Maître, j'ai attelé le chariot.
Alors, fouettez le bœuf.
Qui êtes-vous, messire?
Maître Kun et ses 300 disciples.
Maître Kun? Ah, celui qui cherche quelque chose que 10 doigts ne sauraient saisir, que 10 yeux ne sauraient voir.
Qu'est-ce là, maître ?
Quoi donc ?
Ce que 10 yeux ne sauraient voir, ce que 10 doigts ne sauraient saisir.
Qui êtes-vous, messire ?
Maître Kuhn et ses 600 disciples.
Ah, une cloche muette ! Où ne va-t-elle pas sonner maintenant ?
Maître, il y a là un arbre qui donne à toute heure du jour une ombre épaisse.
Alors, arrêtons-nous.
Dispersez cette racaille !
Et abattez l'arbre !
Que dites-vous, maître, de l'homme qu'un état entier aime ?
Que cela ne suffit pas.
Que dites-vous, maître, de l'homme qu'un état entier est ?
Que cela ne suffit pas. Il vaut mieux qu'il soit aimé des gens de bien et haï des gens de peu.
Dispersez cette racaille !
Et effacez les empreintes des pas !
On a coupé l'arbre sous lequel vous enseignez à Wei. On efface à Sung l'empreinte de vos pas. Que signifie cela, maître ?
Que le savoir de l'Antiquité touche à sa fin.
Qui êtes-vous, messire ?
Maître Kuhn et ses 2000 disciples.
Ah, le faucon qui s'élançait vers les hauteurs, le poisson qui plongeait dans l'abîme. Il n'est plus qu'un chien errant qui a perdu ses maîtres.
Ah, celui qui croit qu'on peut changer le monde et l'homme. Évidemment, c'était avant votre traduction.
Oui, enfin, vous savez, avant ma traduction, il y en a eu déjà beaucoup d'autres, à commencer par celle des jésuites à la fin du XVIIe siècle. En tout cas, je suis vraiment reconnaissante de m'avoir fait écouter cet extrait, parce qu'on se rend compte que dans les années 50, on savait faire de la radio.
Merci pour nous, Anne-Chang.
Intéressant.
Je parle de la traduction des entretiens. Alors, vous parlez de la traduction des jésuites. Première mondialisation de Confucius, les jésuites, alors qui entreprennent une aventure de transfert, de médiation des connaissances assez inouïe dans l'histoire intellectuelle de l'humanité à cette époque-là.
Oui, je crois que malgré toutes les critiques qu'on peut leur adresser, en fait, on peut rendre hommage aux jésuites pour le travail effectivement transfert culturel qu'ils ont fait. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont mis en contact les élites européennes avec les élites chinoises. Enfin, eux ne traitaient qu'avec les élites, évidemment. Et c'est pour ça que l'Europe a perçu de la Chine d'abord justement cette culture lettrée confucéenne.
Vous consacrez 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, peut-être 5 de cours au Collège de France depuis votre élection en 2008 à Confucius. Et vous expliquez que les jésuites ont échoué dans leur tentative de conversion de la Chine, mais qu'ils ont réussi à faire de Confucius un sage parce qu'ils l'ont d'abord traité de saint. Mais pas n'importe quel saint, quoi. Le genre père de l'Église, saint Jérôme, saint Augustin.
Oui, alors là justement, c'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a déclenché, qui a été en grande partie en fait un facteur déclencheur de la fameuse querelle des rites autour de l'année 1700. Enfin,
parce que dans l'Église, certains reprochaient aux jésuites d'être trop accommodants.
Oui, exactement. C'est-à-dire que les jésuites, au fond, étaient très admiratifs du fonctionnement de ces élites lettrées chinoises, dans lesquelles ils se reconnaissaient eux-mêmes. Et donc, effectivement, ils ont pris le parti de traduire le terme chinois shengren par saint, c'est-à-dire sapientissimo en italien, puisque Ricci, enfin, était italien.
Le père Matteo Ricci.
Le père Matteo Ricci. Et donc là, ce parti pris mettait automatiquement, en fait, les sages chinois, Confucius en tête, sur un pied d'égalité avec, effectivement, enfin, les saints pères de l'Église.
La mondialisation de Confucius se fait en latin, parce que le mot Confucius, c'est une invention latine des jésuites ?
Oui, c'est une latinisation de la dénomination chinoise Kronfuz, qui veut dire maître Kron.
Donc, on entendait ça tout à l'heure par la voix de Jean Topard, qui était plutôt le disciple de Confucius dans le feuilleton, que le maître lui-même. Et il s'habillait en lettré confucéen, les jésuites.
Une chanson accuse les jésuites de s'être costumés en mandarin afin de mieux convertir les Chinois. Une autre, certainement d'origine janséniste, met en scène le saint homme Confucius.
Le saint homme Confucius est certainement une idole. quoique tout brillant de vertu, le saint homme Confucius, ses grands défenseurs sont confus, l'anathème est sur son école. Le saint homme Confucius est certainement une idole.
Ben moi, je vous le dis, en 61, on sait encore faire de la radio à la RTF. Il y a une émission qui s'appelle L'Histoire de France en chanson. On a des partitions et puis on prend les musiciens et les chanteurs qui sont là dans le vivier et on leur fait interpréter cette chanson qui montre que le vent tourne pour les jésuites qui vont être condamnés, domptés par Rome. Ça va bientôt en être fini des jésuites.
Non, on n'en a jamais terminé avec eux. La preuve, c'est que actuellement, ils sont de retour en Chine, très très nettement.
Mais ils ont lancé ce que vous, Madame la sinologue, appelez la sinomanie. C'est pas la même chose. La sinomanie qui va durer jusqu'aux années 1750 avec le personnage de Confucius comme modèle pour nombre de philosophes des Lumières comme Voltaire.
Oui, enfin bon, le terme de sinomania ou de sinomanie, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais effectivement, enfin, on peut dire qu'en 1750, enfin au milieu du XVIIIe siècle, il y a une espèce de tournant, puisque bon, cette sinomania a tendance à s'inverser en fait dans son contraire.
Oui, mais avant, voilà. Quand elle triomphe, elle dit Confucius et sa méthode, ça évite par exemple à la Chine les guerres de religion.
Oui, en effet. Enfin, quelqu'un comme Voltaire a amené la Chine en fait dans sa propre perspective, dans sa lutte contre ce qu'il appelait l'infâme, c'est-à-dire en fait le côté obscurantiste de la religion, comme il le voyait. Et donc pour lui, la Chine était effectivement une sorte d'idéal, puisque à ses yeux, le mode de gouvernement chinois était une sorte de monarchie éclairé, qu'il appelait de ses voeux et qui avait réussi justement à éviter en fait les guerres de religion qui sévissaient encore en Europe à l'époque.
Jusqu'en 1750, c'est comme ça, cette première mondialisation de Confucius va se terminer quand même assez tôt, quand par exemple Kant va expulser la Chine de l'espace philosophique et dire que Confucius, c'est juste un prof de morale pour les princes.
Oui, disons que effectivement, enfin, à partir du milieu du XVIIIe siècle, il y a ce tournant qui est dû en fait à une approche beaucoup plus politique plutôt que morale, comme c'était le cas auparavant. Et donc c'est un petit peu la tendance de Montesquieu en fait qui l'emporte et qui fait prévaloir en fait le qualificatif de despotisme oriental par rapport à cette belle Chine philosophique qu'avait inventé Voltaire. Donc à partir du milieu du XVIIIe, c'est Montesquieu, ensuite la Révolution française, les droits de l'homme, tout ça. Et ensuite, effectivement, toute l'histoire du XIXe siècle, en fait, bon, entre dans la concurrence coloniale, tout ça. Enfin, donc, on entre dans une autre ère où la France, l'Allemagne, l'Angleterre, en fait, se redistribuent la géographie intellectuelle, enfin, dans laquelle la Chine change de place.
Et c'est comme ça qu'il y a de plus en plus de sinophobes, mais il reste quelques sinologues, comme ceux du Collège de France. Alors là, moment redoutable.
Mais on peut être sinologue et sinophobe.
Ah oui,
oui, pourquoi pas.
Moment redoutable pour vous, Anne Cheng. Musique, c'est le rite. On est très attaché au rite dans cette émission, comme Confucius. Et Confucius accordait la plus grande importance à la musique. Parce qu'elle s'adresse directement à l'âme, elle évite la parole. Et puis le geste musical expose l'être intime. C'est un enregistrement de sitar. Je vous vois froncer le sourcil. Et c'est enregistré à l'Institut Confucius. Il y a beaucoup d'instituts Confucius de par le monde, et il y en a même un à Clermont-Ferrand.
La musique dissipe les ténèbres de l'entendement. Elle affermit le cœur dans l'amour du devoir. Bref, elle exerce une influence bénéfique sur le peuple.
Le maître, ça fait des jours qu'il joue sans s'arrêter. Comme s'il voulait me mourir avec sa musique.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La vie et la survie perpétuelle de Confucius à travers le monde avec Anne Cheng, professeure au Collège de France et qui est coéditrice de l'excellente bibliothèque chinoise aux éditions Les Belles Lettres. Là, vous faisiez un peu la moue. J'ai pas dit que c'était Zhao Fei, je dois pas bien prononcer, qui était à la cithare chinoise à l'Institut Confucius de Clermont-Ferrand.
Non, enfin bon, disons que c'est on a là un morceau classique qui n'a pas grand-chose à voir avec l'esprit confucéen ni les rites, mais pourquoi pas, enfin c'est
alors les rites, parlons-en. Mmh. Et parlons-en, comme en ont si bien parlé les universitaires américains que vous citez à longueur de cours au Collège de France quand vous parlez de Confucius, parce que il y a une deuxième mondialisation, elle se fait sur cette autoroute du savoir qui va contournant le Pacifique, de la Chine aux États-Unis.
Oui, alors disons que là, il faut quand même rappeler que entre les jésuites et cette deuxième mondialisation américaine qui intervient après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 1950-1960, il y a eu cet épisode de l'invention du confucianisme comme religion du monde. Qui s'est faite essentiellement en Angleterre à la fin du 19e siècle avec des gens comme James Legge qui était à Oxford collègue de Max Müller, donc qui est un petit peu l'inventeur justement de ces grandes religions du monde, à commencer par les religions de l'Inde, l'islam, le christianisme, et donc le confucianisme a été érigé en tant que religion du monde au même titre que ces grandes religions universalistes à la fin du 19e. Et donc, le pragmatisme américain, à partir donc des années 1950, au sortir du deuxième conflit mondial, vient se greffer là-dessus. C'est-à-dire donc Herbert Fingeret, qui est ce philosophe pragmatiste américain, au fond... fait ressortir l'esprit des rites, qui est effectivement tout à fait central dans l'enseignement confucéen, mais pas du tout en termes religieux, justement. C'est ça un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire que il montre comment, justement, le ritualisme peut être, peut informer la vie sociale et les relations humaines.
Je vous propose qu'on prenne des exemples dans les, je dis les versets, mais vous dites les sections des entretiens. Le maître dit, celui qui gouverne sans rien faire, je crois que c'est votre traduction que j'ai prise prudemment, c'est Shun, le souverain mythique idéal. Que faisait-il, Shun? Il se tenait droit, face au sud, rien de plus. C'est drôle, c'est exactement la position d'ailleurs dans laquelle vous êtes à la maison de Radio France,
face
en regardant
à la scène,
le
oui.
sud.
Oui, oui. Ça c'est effectivement, dans cette section intervient justement ce terme très important que j'ai eu l'occasion de commenter dans mon cours au Collège de France, ce terme de zheng. C'est-à-dire donc j'ai eu l'occasion de dire que là en fait c'est le caractère en fait le plus carré, le plus stable de tout le vocabulaire chinois en fait, parce que ça rentre véritablement dans un carré et ça qualifie véritablement l'esprit confucéen dans son essence, c'est-à-dire donc de se tenir droit dans tous les sens du terme, aussi bien physiquement que moralement. Donc il y a une sorte de gestuelle morale, une sorte de physiologie morale.
Mais c'est drôle, depuis que vous êtes là, j'essaie de me tenir droit, parce que je lis section 12 du chapitre 10, ne pas s'asseoir sur une natte qui ne serait pas droite.
Oui, alors là, de nouveau, vous avez ce même terme de zheng, donc de droit, carré, etc.
C'est-à-dire que votre exemple, si je vous prends pour un souverain confucéen à l'instant, Anne Cheng, va avoir un effet sur moi, plus que si vous me tapez, quoi, par exemple.
Oui, là, en fait, il y a justement une croyance dans la force de l'exemple. C'est-à-dire que quand vous vous trouvez face à quelqu'un qui incarne cette rectitude, au fond, il y a pas grand-chose d'autre à faire. En fait, on est happé par la force de l'exemple.
Les règlements, les châtiments, le peuple contournera, mais l'exemple, il suivra. Oui. Bah, tenez, on va parler justement de l'attitude du gouvernement chinois. Troisième mondialisation, la mondialisation contrôlée par la Chine elle-même. Depuis les premières tentatives de modernisation de la Chine qui avaient lieu sous l'Empire Manchou, l'Empire Qing, encore il y a de cela un siècle, le confucianisme avait été critiqué. L'empereur ou l'impératrice mère avait supprimé les enseignements, les examens qui faisaient sortir les élites, les énarques de l'époque de l'enseignement confucéen. Puis après, sauf Chiang Kai-shek, tous les gouvernements chinois avaient tenté d'attribuer au confucianisme le retard, le retrait de la Chine par rapport au reste du monde. Ça a été longtemps l'attitude des gouvernants chinois.
Ça fait un siècle que la Chine s'acharne à détruire effectivement l'héritage traditionnel et confucéen en particulier.
Et puis voilà que juste après Tiananmen, l'anniversaire de Confucius est de nouveau mis en avant.
Non, c'est avant
même. C'était avant Tiananmen. L'anniversaire de Confucius est de nouveau mis en avant par les autorités communistes. Et puis, regardez ce reportage 2007. C'est un phénomène à quoi vous avez été très sensible vous-même. Une sorte de Confucius pour les nuls a été lancé avec beaucoup de succès sur le marché.
Dédicace à la chaîne. En quelques heures, un millier de livres signés par Yu Dan, auteur d'essais philosophiques très célèbres en Chine. Sa réinterprétation moderne des enseignements de Confucius fait fureur dans le pays. Elle a déjà vendu plus d'un million d'exemplaires. Pourtant, l'année dernière encore, Yu Dan était simple professeur de communication, parfaitement inconnu du grand public. Aujourd'hui, elle attire les foules.
Les personnes qui suivent mes conférences et lisent mes livres sont soucieuses de leur qualité de vie. Ils veulent savoir ce que signifie être chinois.
Selon Yu Dan, Confucius désapprouverait ceux qui traversent les rues en dehors des passages piétons, qui crachent ou qui jettent des détritus par terre. Des thèses apaisantes vues d'un bon œil par les autorités. Le gouvernement les encourage même alors que les manifestations sont de plus en plus nombreuses en Chine. On en a compté plusieurs dizaines de milliers en 2006. Cette école confucéenne privée, créée il y a un an, a été la première autorisée à abandonner les enseignements de Marx et de Mao. Les élèves apprennent les grands classiques et doivent lire les textes clés de Confucius 1000 fois avant de passer leurs examens. L'établissement a reçu un soutien appuyé du gouvernement central et croule sous les demandes d'aide pour en créer d'autres similaires à travers le pays.
Vous assistez beaucoup dans vos cours sur ce Confucius pour les nuls et puis, comme le reportage qu'on vient d'entendre, sur les écoles confucéennes privées.
Oui, cette Madame Yu Dan, je pense qu'elle doit son succès d'abord au fait qu'elle-même n'a rien d'une universitaire ou d'une intellectuelle. En fait, elle a été formée en communication, donc c'est une championne de la communication. De fait, elle sait très bien parler aux foules. Mais disons que cette version de Confucius qu'elle donne va tout à fait dans le sens voulu par le discours officiel sur la société socialiste d'harmonie.
Traverser bien dans les clous, respecter la famille.
Oui, exactement. Oui, le sens de la discipline, etc. Et surtout éviter de parler de tous les sujets qui fâchent. Enfin, donc bon. Alors que dans les entretiens de Confucius, il y en a des sujets qui fâchent, mais sauf que elle choisit de les laisser de côté. Bon. Alors maintenant, effectivement, ce phénomène des créations d'écoles privées qui inculquent de nouveau aux petits Chinois, en fait, l'apprentissage des classiques. Alors ça a été longtemps considéré par les autorités de manière assez ambivalente parce que bon, ils savaient pas trop quoi en penser, étant donné que ils sont quand même de formation marxiste. On les a bassinés depuis l'enfance sur la lutte des classes, et là tout d'un coup on baigne enfin dans une sorte de bain d'harmonie tiède, enfin où disparaît toute notion de conflit. Donc là, ils sont un petit peu gênés aux entournures, ils savent pas trop quoi en penser. Alors ces écoles ont ouvert, fermé, rouvert et refermé, etc. Donc
vous parlez
d'une certaine gêne, mais
vous parlez d'un bouillon de poulet qui est servi et par Yudan et par ces écoles privées. Je n'ai pas bien compris
là,
si c'était.
Là, ce sont des critiques de Yudan qui disent qu'elle sert en fait du bouillon de poulet pour l'âme, oui.
Ou pour les ânes.
Pour les ânes, oui.
C'est tout à fait autre chose, Confucius.
Je pense que oui. Enfin bon, alors maintenant, il faudrait effectivement consacrer 10 autres émissions à qui était Confucius, mais dans le texte des entretiens, c'est, certainement, on trouve d'autres choses que du bouillon de poulet, oui. C'est des choses beaucoup plus pimentées, disons.
Quelles sont les aspérités, une aspérité à laquelle vous tenez dans Confucius?
Eh bien, par exemple, l'ordre de priorité qu'il établit entre l'économie, la défense et la confiance que le peuple place dans son souverain, dans ses chefs. Enfin,
alors quel est l'ordre?
Ben, l'ordre, en fait, c'est, disons, d'abord la confiance, ensuite la défense et ensuite l'économie.
Enfin, Laurent Fabius, quand même, qui vient d'inaugurer à Rouen, à la Rouen School of Economics, un institut Confucius pour le business. Qu'est-ce qu'il va penser de ce désordre que vous introduisez, Han Cheng? Merci à vous, votre histoire de la pensée chinoise. On trouve toutes les références sur le site, la bibliothèque asiatique que vous animez aux belles lettres, et puis vos cours podcastés sur le site du Collège de France, en français, bien sûr. Traduit en anglais.
Et en chinois.
Et en chinois, ça va de soi.
Le maître dit, faute de se régler sur le rituel, la politesse devient laborieuse, la prudence timorée, l'audace rebelle, la droiture intolérante. Que les gouvernants montrent l'exemple de la sollicitude envers leur famille, le peuple tendra naturellement vers le jeune. Qu'il montre l'exemple de la fidélité aux vieilles connaissances, le peuple ne sera jamais cynique. Le maître dit, pourvu que les gouvernants s'attachent au rituel, le peuple sera facile à gouverner.
Merci à Han Cheng, Alice Berger, à la technique, la préparation Frédéric Martin, la réalisation Jacques Sigal.
Merci Jean Lebrun. Demain mardi, la marche de l'histoire poursuit son exploration en terre asiatique et le thème de l'émission portera sur le Laogai, le goulag chinois, et vous serez en compagnie du sinologue Jean Domenac pour nous en parler.